14h. On en jase.
13h02 à On en jase. On a Samuel Poulin, nouveau ministre dans le Parlement de la CAQ. Mais avant, Pascal, il y a des problèmes dans la circulation.
Oui, un gros accident qui vient d'arriver dans le coin de Le Bourgneuf, là, à la lumière, coin des Brumes. Ça, c'est en face d'Hydro-Québec. Il y a une voiture qui a embouti le derrière d'une autre voiture qui a fait une fausse manœuvre. Puis ça fait des tonneaux dans le secteur. Donc, ça vient d'arriver. C'est assez frais. On surveille ça, mais gros accident dans Le Bourgneuf à la lumière, coin des Brumes.
Alors, soyez prudents sur la route, chers conducteurs et conductrices. On a au bout du fil Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et nouveau ministre responsable de la jeunesse et ministre délégué à l'économie et au PME. Monsieur Poulin, comment allez-vous?
Ça va très bien, Monsieur Fortin, et vous?
Ça va super bien, merci pour votre disponibilité. Monsieur Poulin, d'entrée de jeu, personnellement, comment on se sent d'être nommé au Conseil des ministres après autant de temps comme député à la CAQ?
Bien, le poids de la responsabilité, d'abord, parce que je me considérais déjà très chanceux d'avoir, à 34 ans, bientôt 35, d'avoir été député pendant 8 ans de ma région Beauce-Sud. Alors, j'étais déjà très content des fonctions que j'avais. Je sais aussi qu'un remaniement, c'est difficile pour un premier ministre. Il y a des choix humains, il y a la complexité régionale, la complexité de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, je n'avais pas d'attente, mais évidemment, mon nom circulait. Alors, d'avoir l'appel, d'avoir un dossier aussi important que celui-là, évidemment que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, mais en même temps, je suis au travail pour pouvoir faire avancer les choses. Dans ce mandat, il nous reste 12 mois, alors faut être efficace et travailler vite.
Pourquoi on vous a choisi, vous pensez?
Je pense que je suis tenace, je prends la parole au caucus, je comprends les régions du Québec, je comprends l'importance de déréglementer, du libre-marché, de l'imputabilité. Dans les valeurs que M. Legault a dit hier, je pense que je m'inscris directement là-dedans. Et aussi, ben, je suis un gars qui défend ma région. Bon, mes collègues ont voté dans le palmarès de la presse à quelques reprises parce que je suis tenace, j'accepte pas un non. En même temps, malgré mon jeune âge, ben, je comprends l'appareil gouvernemental, je comprends les budgets. Alors, je pense que c'est un peu tout ça. Puis, j'ai étudié au Collège Radio-Télévision de Québec. Moi, au même moment, j'ai une famille d'entrepreneurs en Beauce. Alors, je pense que j'ai un profil assez particulier.
Parlons-en justement d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nos PME ont besoin au Québec, notamment en Beauce?
Je vais déposer une loi prochainement pour déréglementer plusieurs éléments. Alors, pour d'un allègement réglementaire via différents projets, via différents ministères.
Lesquels, par exemple, qu'on va justement déréglementer?
La loi fait que je dois attendre qu'elle soit déposée. Vous comprenez que je suis arrivé hier. Alors, faut que je prenne le temps de bien l'asseoir pour que ça fonctionne. Alors, je ne veux pas créer d'attente sur un volant en particulier, mais l'esprit, il est là. Les entreprises, les PME, il y en a 250 000 au Québec de moins de 250 employés. Là. C'est important, c'est dans tous les domaines. Moi, la restauration, là, je suis un grand amateur comme vous, mais je crois qu'il faut être le meilleur ami des restaurants. Il faut les aider, il faut les accompagner. Si on veut en avoir beaucoup, c'est le cas à Québec, mais c'est le cas dans les régions. Je pense que l'industrie du bois, avec les tarifs qu'on vit présentement, il faut faire des éléments de plus. Il y a l'industrie du transport, il y a bien évidemment l'acier, l'aluminium qui a encore des tarifs. Alors, c'est très vaste, il y a beaucoup d'éléments, et s'il y a des gestes que je peux poser à court terme pour leur alléger la vie, je vais le faire.
Parce que, bon, effectivement, les restaurants, pour faire le mini-parenthèse, il y en a beaucoup qui disent que c'est toujours les oubliés des élus, c'est toujours les oubliés du secteur entrepreneurial depuis longtemps. Monsieur Poulin, on vous voit aller depuis longtemps, on vous connaît, je veux dire, moi, je sais vous êtes qui depuis des années. Vous êtes un travaillant. En 12 mois seulement, en tant que ministre, est-ce que, avec tous les projets, la ferveur, la rigueur qu'on vous connaît, vous pensez réussir à satisfaire les citoyens, les contribuables, ou il faut déjà avoir en tête que c'est tellement court, 12 mois, qu'on ne peut pas vous qualifier comme étant un bon ou un mauvais ministre à la fin?
On ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on soit là un an ou qu'on soit là 4 ans. Alors ça, c'est un fait. Maintenant, j'ai une feuille de route là. Tu sais, j'ai appris ma fonction mardi, j'ai été assermenté hier, j'ai déjà rencontré les professionnels du ministère de l'Économie. Ça va se poursuivre ce soir. Là, présentement, je vous parle en direct de la Beauce parce que c'est important d'être avec mes gens aujourd'hui. J'avais un agenda, je voulais pas le canceller, je voulais être avec eux parce que ça reste ma première priorité. Mais oui, le cadran compte là. Alors, 12 mois, c'est très rapide. Les gens jugeront sur le travail, jugeront sur ce qu'on aura accompli, mais il n'y a pas de temps à perdre, là, tu sais. Et moi, j'attends pas de me faire créer une nouvelle adresse courriel, là. Je travaille avec mon courriel de l'Assemblée nationale, comprenez-vous? Alors, tu sais, je veux être efficace, je veux savoir où on s'en va. Et les PME, je les connais déjà. Donc, j'ai pas à m'imprégner. Vous parliez des restaurants qui ont peut-être, oui, c'est vrai, été des oubliés pendant des années. Alors, je veux qu'on retravaille le cube Rubik avec eux sur toutes les façons de faire. Les concessionnaires automobiles, ils sont tellement importants. C'est du monde qui collabore à nos festivals, à nos événements. Ils font vivre nos communautés dans nos régions. J'y voyais hier la Corporation des concessionnaires automobiles. On s'est croisés. Alors, je vous dirais, oui, le temps est court, mais je me gênerai pas pour mettre le temps et l'énergie pour consacrer et faire une différence.
En terminant, est-ce que vous allez vous battre au sein du caucus des ministres pour empêcher justement des investissements à l'étranger, comme les investissements là, avec Nordvolt qui attire des compagnies étrangères ici, plutôt investir dans les PME?
Tant Investissement Québec fait ses investissements dans la dernière année, là, c'est plus de 95% qui est fait. Notamment dans des PME et dans des entreprises québécoises. Alors, il y a certains...
Oui, au niveau des prêts pardonnables, par contre, c'est énormément là, pour les entreprises étrangères. Là, ce qui est sorti dans les médias, c'est au-delà de 65%.
Oui, mais moi, j'en ai beaucoup en bourse qui ont des prêts pardonnables, qui en ont eu et que ça fonctionne. Il y en a d'autres, ça a été des subventions directes dans l'industrie du bois, notamment pour automatiser, pour robotiser. Alors oui, il y a des symboles comme ceux-là, que des fois, je peux compter sur le doigt d'une main ou deux, qu'on met de l'avant, alors qu'on aide beaucoup de PME en région, on aide beaucoup d'entreprises. Et oui, je serai là pour les PME à propriété québécoise. D'ailleurs, la mission d'Investissement Québec auprès des PME, c'est déjà dans mon agenda pour qu'on puisse regarder le tout.
Monsieur Poulain, on vous souhaite un bon début en tant que nouveau ministre de la Jeunesse et également ministre délégué à l'économie et aux PME. Et au plaisir de se parler en studio lorsque vous serez à l'Assemblée nationale. Passez nous voir sur le boulevard Le Bourgneuf. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous.
Avec plaisir. Merci à vous deux.
Merci. Bonjour, bonne journée. C'était Samuel Poulain, nouveau député, député de Beauce-Sud, mais nouveau ministre responsable de la jeunesse et ministre délégué à l'économie au PME. Bon, c'est sûr, c'est une petite mise en bouche, Pascal. Monsieur Poulain avait un agenda bien chargé. S'il veut demeurer en poste, va falloir vraiment, mais vraiment, qu'il prenne soin des PME, c'est le nerf de la guerre en Beauce.
Oui, même s'il est réélu dans sa circonscription, son comté, peu importe, ça reste qu'il faut que sa partie soit élue aussi
oui.
Pour qu'il puisse avoir un peu le penchant. Mais c'est un, et je dois dire, quelqu'un, une personnalité politique qui travaille très fort dans son secteur depuis toujours. Là. C'en est un qui est dévoué, même dans les médias, il travaillait dans le coin de la Beauce.
Je suis très d'accord avec
ça,
toi.
Ça, je peux pas y enlever.
Non.
Je serais vraiment pas correct
le
contraire.
Exactement.
Puis c'est vrai qu'il a toujours été travaillant.
Mérite sa place en tabarouette dans ce Conseil des ministres.
Oui, puis tu sais, attends, dans le sens où on peut voir pour son travail qu'il mérite.
Oui.
En même temps, c'est le type de ministre actuellement, ministre, qui est un peu plus dans ce que François Legault dit. Veut.
Tu as raison, mais ça sort par texto que, hey, la cassette caquisse est repartie.
Mais ça a toujours été un petit peu plus dans la talle de M. Poulain, là, de suivre son premier ministre.
Oui.
Puis, tu sais, il y a plein de façons d'analyser. Ben, c'en est un qui est fidèle au premier ministre. Il doit quand même sa chance politique. C'est du donnant-donnant à un certain point. Mais c'est une coalition. Fait que des fois, c'est correct aussi d'avoir un petit peu de
coltaillage. Oui, c'est le respect de la hiérarchie, souvent, des fois, de la façon que tu as été éduqué. T'sais, il dit, il vient d'une famille d'entrepreneurs. Donc, j'ai l'impression que ça peut faire partie là, justement de son background.
Toujours
familial.
Apprécié d'un premier ministre. Au niveau des contribuables, de ceux qui élisent, ben peut-être que quand vient le temps de s'élever vers un peu de polémique, ils s'attendent à ce que leur député, comme M. Poulain est extrêmement près de son monde dans son coin, ils s'attendent peut-être à ce qu'il y ait un petit peu plus de rififi des fois.
Ouais.
Ou de
j'suis défense.
D'accord.
Un peu plus de brassage à l'interne. On lave notre linge sale en famille.
Oui.
Exactement, ça va être à voir. 21 degrés à l'heure actuelle, c'est généralement ensoleillé. 21 degrés ensoleillé pour vendredi, pour le week-end. C'est un super beau week-end ensoleillé à 22 degrés. Il est présentement 13h11. Pascal, en attendant, notre collègue Rémi Villemur, qu'est-ce qu'il faut suivre dans l'actualité?
Oui, il y a beaucoup de choses actuellement, mais c'est sûr que moi, je commence avec tout ce qui se passe au niveau d'ici. Je dois dire qu'il y a eu des revirements sur le troisième lien et Legault regrette les gros cartables de Mme Guilbeault. On est dans les regrets.
Ouais.
Dans les dernières heures, il y a beaucoup de choses du type qui
sort. Il est peut-être tard pour regretter les cartables.
On reconnaît avoir commis des erreurs dans la région de Québec. C'est vraiment Québec là, qui est un petit peu prôné en ce moment. On a l'impression de se faire essayer d'envelopper dans une grosse doudoune.
Essaye encore de nous séduire.
Mais François Legault a dit avoir commis des erreurs qui étaient stratégiques là, dans la région de Québec, entre autres pour le troisième troisième lien, regrette particulièrement le point de presse de Mme Guilbeault en 2023, hein, quand elle est arrivée là, avec sa pile de cartables pour essayer d'expliquer l'abandon du projet. Il l'a dit, parce qu'il fait une tournée médiatique, là, il est un peu partout en ce moment, mm-hmm. François Legault, après l'annonce de son remaniement. Il dit, je ne l'aurais pas fait, vous savez, on a beaucoup abordé le dossier du troisième lien, on se basait sur l'achalandage, on se demandait combien de minutes on pourrait sauver avec un troisième lien, mais j'aurais pas fait ça comme ça. Les études qui étaient contenues dans les cartables de Mme Guilbeault démontraient que l'achalandage justifiait pas la construction d'un troisième lien entre les deux rives. Puis c'est un projet qui était évalué à l'époque, rappelez-vous, à 9,3 milliards de dollars. Il a continué, il a plaidé, et il dit, mais en même temps, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul des deux ponts qui permet le passage de camions. Lui, il souhaite le développement économique de la grande région de Québec. Fait que c'est un peu cette cassette-là qu'on connaît.
Ouais, qu'on connaît à nouveau.
Puis en gros, ben, c'est je m'excuse, le point de presse n'aurait pas dû être celui que vous avez mm-hmm. connu.
Ça va être à suivre parce qu'avec le tracé actuel, il y a déjà le maire Marchand qui s'est élevé en disant hey, on ne scindera pas Vanier en deux, on ne passera pas par le boulevard Pierre-Bertrand. Et il y a énormément d'acteurs municipal qui pensent la même chose, même ceux qui sont anti-tramway. Un Hugo Langlois dans l'équipe Samamad a dit exactement la même chose. Alors, la CAQ est attendue de pied ferme avec ce tracé-là.
Absolument. Sinon, dans l'actualité, ce qu'on a appris dans les dernières minutes, c'est qu'il y a une collision qui implique un autobus scolaire puis un poids lourd en Chaudière-Appalaches. C'est une vingtaine d'élèves qui ont été transportés à l'hôpital. Ça est soudain. Collision qui implique l'autobus scolaire, comme je vous disais, qui est survenu sur la route 271. C'était, en fait, l'autobus qui était immobilisé. On voulait faire monter un élève à bord, puis le poids lourd a percuté la voiture de plein fouet, la voiture qui attendait directement derrière l'autobus. Selon les informations de l'école, les jeunes qui se trouvaient dans les autobus, bien sûr, il y en a pour certains que c'est des blessures mineures, d'autres un certain traumatisme, mais ils ont été, pour les 24, transportés à l'hôpital. La conductrice de la voiture a été transportée à l'hôpital aussi. Elle a des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Donc, plus de peur que de mal, mais quand même un bon accident là, du côté de Chaudière-Appalaches.
Une petite dernière en attendant, notre collègue Rémi Villemur qui veut nous parler justement de la violence aux États-Unis en lien avec l'assassinat de Charlie Kirk.
Ben regarde, on peut en parler justement de ça, l'assassinat de Charlie Kirk. FBI qui a publié des photos d'une personne d'intérêt. Après avoir retrouvé l'arme, le FBI publie des photos de cette personne-là. On offre une récompense de 100 000 $. Ça vient de sortir dans l'enquête sur la mort de l'influenceur conservateur. On cherche encore le suspect principal.
Merci beaucoup, Pascal CV, pour ces manchettes. On a, au bout du fil, notre collègue du 99.5 Montréal. Il a une émission de 18h à 19h du lundi au jeudi. Et il est là le samedi matin avec Jacinthe Varel de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ben ça va. C'est une drôle de journée. Je sais pas si...
Oui, hein?
Ben, moi, hier soir, il y a des gens qui se sont mis à m'écrire en me disant qu'ils ne se sentaient pas bien. Des Québécois, des gens, pas des Américains. Ils disaient, je ne sais pas si tu, comme moi, prends ça personnel. Puis là, je leur disais, il y a quelque chose de bizarre que je ressens. Puis ça va me prendre la nuit pour mettre des mots là-dessus. Et ça m'a pris la nuit pour mettre des mots là-dessus. Puis c'est étrange. C'est un Américain qui n'était pas un personnage méga connu au Québec. Là, on ne va pas se compter mm-hmm. de mentir. Les jeunes l'avaient vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Les jeunes plus associés, et même les moins jeunes plus associés à la droite conservatrice, connaissaient bien ce personnage-là. Mais là, moi, j'ai des gens dans ma famille, des oncles, des tantes qui ne sont pas de droite, qui sont complètement dévastés parce qu'on dirait que la fameuse promesse qu'on nous fait depuis des années, voulant que tout se règle par les mots, que le dialogue peut nous sauver, que la réponse se trouve au milieu, autour d'une table, idéalement avec un petit verre de bière, eh bien, on dirait qu'elle est rompue, cette promesse-là.
C'est cette montée, c'est cette crainte de montée de violence. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a apeuré hier, de dire, OK, on s'en va où avec cette violence-là dans un système qui est démocratique?
Bien, on s'en va. Moi, je t'ai écrit hier soir, guerre civile, là, ce sont deux mots qu'on est incapable au Québec de mettre ensemble parce que ça ne fait pas partie de notre histoire. Mais il faut savoir que les États-Unis, jusqu'au 19e siècle, c'était le rythme et une constante de leur histoire. Et ils sont toujours à peu près 2 millimètres que ça éclate. Et quand il n'y a pas de guerre civile, il y a une guerre culturelle qui est engagée aux États-Unis depuis au moins l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Et c'est exactement ça qui est sur le point peut-être de survenir, c'est-à-dire des affrontements entre des idées, mais qui débordent comme ça avec des armes. Et moi, mon problème avec ça, c'est qu'on nous disait que si on pouvait l'éviter, on pouvait l'éviter en discutant. Et ce que Charlie Kirk faisait, c'était se présenter sur des campus, installer une table, parce que vers la fin, il y avait toute une mise en scène, il y avait des caméras, mais au tout début, c'est pas ça qu'il faisait. Il mettait une petite table, une petite chaise, un petit carton, puis il disait, venez me prouver que j'ai tort. Et là, il lançait des énoncés qui, pour moi, relevaient du gros bon sens. Une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Une femme, c'est biologiquement déterminé. L'histoire des États-Unis est marquée par ceci. Et là, il y a des gens qui venaient s'opposer à ce qu'ils disaient et ils les écoutaient. Ils les écoutaient, ils leur répondaient. Des fois, c'était une humiliation rhétorique. Il n'y avait rien de physique là-dedans. Il encourageait la discussion et ça lui a valu la mort. Donc, où on s'en va si une discussion mène désormais à la mort?
Il y a quelque chose de... Parce qu'on se penche beaucoup sur les propos. Les propos sont importants. C'est correct d'être en désaccord avec ça. C'est correct d'être en accord avec ça, dans le sens où on est dans un pays, ici au Canada, puis ils sont dans un pays aux États-Unis où on n'a pas les valeurs qu'on voit ailleurs dans le monde. Puis le fait de discuter nous enrichit énormément. Le fait de le faire de façon pacifique aussi. À l'arrivée de Donald Trump, il y a une chose, moi, qui m'inquiétait puis que je le disais toujours, c'est son leadership. Pour moi, le leadership de Donald Trump n'était pas celui qui devrait être à la tête des États-Unis en ce moment, dans un monde qui se fractionne avec la géopolitique qu'on connaît. Et j'ai eu hier un peu l'image du leadership que je n'aime pas. Un leadership dans un temps de crise comme ça, peu importe tes allégeances politiques, peu importe tes opinions, c'est de ramener ton peuple soudé et non divisé encore plus. Et les prises de parole qui ont été prises par rapport au président des États-Unis hier m'ont beaucoup déçu. Puis là, je pèse mes mots, mais moi, j'aurais aimé entendre, peu importe que ce que vous pensez, peu importe si vous êtes dans le clan républicain ou démocrate, aujourd'hui, il faut prouver qu'on est tous ralliés contre la violence. Et cette violence-là ne mènera à rien et personne ne doit l'encourager en propos, en gestes et en encouragement ou à l'acceptation d'un geste comme tel. Ça aurait dû être ça, le discours du président hier, parce que il a sa crowd, il a son monde qui l'écoute. Puis il serait allé chercher aussi beaucoup de gens dans l'autre crowd qui est un peu son ennemi en termes d'idéologie politique, pardonnez-moi, il y a quelque chose dans mes écouteurs en ce moment. Et ça fait en sorte que j'aurais beaucoup aimé voir autre chose que ce que j'ai entendu parce que là, j'ai peur pour la suite des choses. On est en train vraiment de diviser le peuple américain, puis ça traverse les États-Unis en ce moment.
Ouais, ben là, ça va être la bataille des versions, parce que moi, j'ai entendu une partie des nombreuses allocutions qu'a prononcées donc Donald Trump depuis hier. J'ai entendu à un moment donné un message très, très encourageant, un message qui visait à réunir le peuple américain.
Ça, c'est important.
Oui, donc je l'ai entendu dire ça. Par la suite, c'est vrai, je dois l'admettre. Je l'ai entendu pointer du doigt la gauche, radicale, mais à partir du moment qu'on a une bonne idée de qui a commis le meurtre, là, on a trouvé l'arme. Sur l'arme, il y avait des inscriptions. Les inscriptions, c'était plutôt associé à une certaine idéologie. Je pense qu'il ne faut pas tourner en rond non plus, parce que pour éviter que ça se reproduise, ça serait bien quand même de nommer le problème. Parce que si on nomme pas le problème, puis qu'on se met la tête dans le sable, puis qu'on dit si on le nomme, ça va encore plus polariser les gens,
Et le problème pour
c'est pas ce qui
toi, le
garantirait que
problème
ça
pour
se
toi, Rémi,
reproduise.
c'est les groupuscules radicaux, autant à gauche qu'à droite?
Ben là, en l'occurrence, cette fois-ci, il est question de la gauche, là. Je ne sais pas pourquoi ce serait le moment de faire le procès de la droite, là.
En effet, t'as entièrement raison.
On fera le procès de la droite quand la droite sera derrière un attentat politique. Il se trouve que les trois derniers d'importance qui sont survenus aux États-Unis, c'était la gauche qui était derrière. Il y en a eu deux dont Donald Trump a été la cible. Et cette fois-ci, ça s'est terminé de façon encore plus tragique.
Est-ce qu'on pourrait nommer le
Ça.
problème, Rémi, mais en parlant aussi de la violence en général dans les groupes d'extrême? Est-ce que ça peut
Ouais,
être
mais.
fait? Là, voici, là, il y a des photos du suspect avec ce qui va être écrit sur l'arme, avec ce qui va sortir de l'enquête, de nommer ça, d'aller au fond des choses, de voir si c'est plus gros que ce que cet individu-là semblait être un petit peu seul dans ses gestes, mais de prendre tout ça, mais de ne jamais oublier qu'une violence, peu importe envers qui, envers quoi, n'est pas la solution, est à répéter et répéter.
Je comprends, mais le fond des choses, on ne s'entend peut-être pas sur ce que c'est, mais le fond des choses, c'est qu'il y a un certain clan aux États-Unis qui refuse le dialogue et qui, lorsqu'il n'a plus d'arguments, il prend des armes et il tire sur ses interlocuteurs. C'est ça, pour moi, le fond des choses. Après, on peut décider, on peut dire aussi que le fond des choses, c'est les armes aux États-Unis, Mais là, ça, c'est structurel, c'est constitutionnel, c'est ontologique aux États-Unis, cette discussion-là. On ne l'aura pas avec Donald Trump, puis on l'aura pas avec Barack Obama, Joe Biden ou Kamala Harris non plus. Hein. Ils ont eu quand même leur chance. Kamala Harris, évidemment, était vice-présidente. Mais donc, le fond des choses, et sur la base de ce qui s'est produit dans les dernières années, c'est que lorsque l'extrême gauche n'est plus capable de fournir un argument, eh bien, ces éléments les plus fous prennent des armes et tirent dessus, tirent sur ses adversaires. C'est ça le fond des choses. Et ça fait mal et on est de la difficulté à le comprendre parce que la gauche, c'est la bienveillance. La gauche, c'est l'inclusion. La gauche, c'est le bien. La gauche, c'est la générosité. Mais la gauche, c'est aussi ça. L'histoire est catégorique. Il y a plein d'exemples de débordements à
Mais
gauche.
dans
Donc,
l'extrême, c'est jamais bon. Puis on en voit plein de débordements gauchistes là, qui sont épouvantables et qui finalement minent même le courant de ceux qui voudraient plus d'égalité puis ils le font de façon
ben oui.
pacifique. Là où pour moi, c'est important de ramener l'importance d'une non-violence, là, c'est pour calmer les tensions en ce moment, calmer la grande fracture qui est en train de se passer dans le peuple américain parce que ça va avoir des conséquences fulgurantes sur le déchirement d'amitié, de famille et tout ça, parce qu'ils vont juste s'opposer sur la gauche et la droite. Puis l'extrême doit être pris comme étant l'extrême en général, qu'il y ait de l'extrême gauche, qu'il y ait de l'extrême droite. Ça ne me dérange pas qu'on nomme les faits, mais il faut vraiment apaiser les tensions en ce moment. Puis hier, je pense que j'ai perdu 2 à 3 heures ce matin encore à juste lire des réponses sous des publications, à lire ce qui se passe dans différents réseaux avec les commentaires des gens qui sont assis dans leur salon, là. Puis il y a une grande tension parce que tout le monde est fâché d'une manière ou d'une autre, puis cherche des coupables. Le
Oui,
coupable, c'est celui qui a tué. Le coupable, c'est l'idéologie extrême, qu'elle soit gauche ou de droite. Mais il faut amenuiser les tensions, puis ça part de prendre le courant extrême dans son étendue.
ouais, mais je vais me répéter, mais la droite n'a pas rapport avec ce qui s'est passé. Donc, quand tu dis l'idéologie extrême, qu'elle soit de gauche ou de droite, moi, je pense que quand on tourne en rond, on ne règle pas des problèmes.
Mais il faut le
Donc, il faut
prendre
nommer.
aussi là, en ce moment, à la base, parce que la droite, en ce moment, se fâche énormément contre la gauche, fait que les deux vont. T'sais, je veux pas juste que ça monte une tension puis ça fasse en sorte que ça soit complexe pour la suite.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut nommer les choses. Je pense que Donald Trump, on lui connaît son style, il dépasse les bornes, mais il a un mandat difficile en ce moment. Il a une responsabilité presque impossible. S'il avait prononcé les mots que tu aurais souhaité, je ne suis pas sûr que ça calmerait non plus tant que ça la population, parce que s'il disait le problème, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est les extrêmes, c'est la violence, les gens diraient, mais attends une minute, il nomme pas le problème. On pensait l'avoir élu pour qu'il nomme les problèmes. Donc, je pense que son mandat est à peu près impossible dans des circonstances comme ça.
Rémi, merci beaucoup parce que tu fais énormément réagir nos auditeurs et c'est très positif. Il y a des gens qui te disent bravo Rémi, t'as absolument raison. Il y en a d'autres qui disent hey, aucune preuve encore que ça vient de la gauche. Donc, pourquoi Rémi dit ceci? Mais il y a une question très intéressante que j'ai captée ici par texto qui vient d'Éric. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle et là on le ramène plus local avec la crise d'octobre en 1970 au Québec?
La crise d'octobre, quand on connaît l'histoire du Québec, c'est une période un peu particulière où les indépendantistes québécois, une certaine frange extrême, de gauche d'ailleurs, je veux juste le préciser encore
Ben,
une
c'est
fois.
exactement pourquoi je te pose cette question-là et que je trouvais la question pertinente d'Éric.
À ce moment-là, ces gens-là s'étaient inspirés d'une énergie qui venait d'ailleurs. On était dans la décolonisation un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Il y avait des mouvements de libération, mais c'était pas un mouvement, le mouvement du FLQ, qui était profondément québécois. D'ailleurs, le peuple québécois, assez rapidement, avait dénoncé les agissements du FLQ, ne suivait pas la violence, ne la soutenait pas, ne l'acceptait pas, ne la trouvait pas québécoise, cette violence-là, parce qu'on est différent, on est différent des Américains. Pour ce qui est des gens qui disent qu'il n'y a pas encore de preuves, ils ont raison. Par contre, on a retrouvé l'arme et sur l'arme, il y avait des inscriptions et les inscriptions sont des slogans d'extrême gauche. Donc
OK,
là, je vais
ça, j'avais
essayer
pas
de.
cet élément d'information-là, merci.
Absolument. Non, non, non. Donc, évidemment, je veux juste être prudent. On utilise le conditionnel présent. La personne n'a pas été trouvée. Par contre, on a identifié un suspect. Il y a des images qui circulent en ce moment. Et l'arme en question, on sait déjà que c'est l'arme qui a servi à tuer Charlie Kirk. Quand on fait une analyse balistique, sur l'arme, il y avait des slogans d'extrême gauche. C'est une pratique courante. Quand Alexandre Bissonnette avait fait ce qu'il avait fait à Québec, on avait retrouvé sur son arme des slogans. C'est une pratique courante dans les tueries de masse. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas qu'on ait dit que Alexandre Bissonnette était simplement quelqu'un d'extrême. On avait dit qu'il était d'extrême droite. On avait dit que c'était un islamophobe. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas associer ce qui s'est passé hier à la gauche. Mais quand c'est à la droite, par contre, on dirait que c'est plus facile de faire des déductions. C'est pas inutile de dénoncer cette injustice-là.
Rémi, je termine avec ça parce que j'aime beaucoup faire l'avocat du diable par texto. Le président américain, avec son discours, vient d'ouvrir la chasse à tout ce qu'il n'aime pas. T'en penses quoi?
Ben, il vient d'ouvrir la chasse. On est en guerre culturelle aux États-Unis. Ça, si on n'accepte pas cette idée-là qu'il y a une guerre culturelle entre les idées depuis au moins les années 60 aux États-Unis, on ne comprend pas la dynamique. Donald Trump n'est pas parfait. Il est allé sans doute trop loin. Il aurait peut-être pas dû nommer les choses aussi clairement que ça. Sauf que par le passé, on n'a pas nommé les choses, puis ça n'a pas réglé les problèmes. C'est pas mauvais de changer des fois de stratégie.
Rémi Villemur, tu nous fais toujours réfléchir différemment et c'est ce que j'adore. On a des excellents débats. J'ai adoré ton débat avec Pascal CV sur cette question d'extrême gauche, extrême droite. Merci de faire partie de cette belle émission. On en jase et au plaisir de se reparler mardi prochain.
Bye-bye à vous deux, sans rancune, Pascal.
Mais moi, j'aurais pris plus de temps même pour qu'on s'en jase.
Merci, Rémi Villemur, à plus. Salut. Rémi Villemur, toujours très, 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 très intéressant à écouter. Il va dans des sphères différentes. Puis oui, Pascal, on reprendra ce débat-là, extrême droite, extrême gauche, avec plaisir.
C'est même
fais-moi
pas...
penser, on enverra ça à Rémi, puis on fera ça mardi prochain.
C'était
avec
plus
un
une
immense
question
plaisir.
De leadership. Comment appliquer
ouais,
un
comprends.
Leadership rassembleur quand il y a des tragédies du type qui se présentent, puis que ton peuple se martèle, puis se martyrise là,
ouais.
Socialement parlant, de plus en plus.
Moi, je te dirais que, selon moi, Donald Trump a une réaction très émotive, humaine au départ, avec la mort de Charlie Kirk, parce que c'est un proche de lui, un proche collaborateur, une personne certaine qui aimait foncièrement. Par la suite, par exemple, et c'est Raphaël Jacob là, de la chaire Raoul Dandurand qui le disait à Radio-Canada hier soir, il s'est tempéré dans ses propos et ça lui faisait dire qu'il voyait une différence avec qu'est-ce qu'il a vu dans les années 60, avec les politiciens qui se rangeaient vraiment droite-gauche. Il disait « Trump a ramené ça un peu plus au centre ». Mais bon, est-ce que c'était assez au centre? Ça reste à déterminer.
C'est les prises de parole émotives quand t'es une personnalité politique d'envergure comme Donald Trump. Puis tout le monde est à risque de faire une erreur là, quand on est aussi haut dans la hiérarchie politique.
Ouais, oui.
Mais c'est toujours le pas de recul. Il faut toujours prendre le temps de souffler. Puis je te dis pas de sortir 2 jours plus tard, il aurait été trop tard. Mais chacune de tes paroles va être bue par ton peuple. Et en ayant cette conscience-là, tu dois être plus mature et élevé au-dessus de la situation qui est émotive. Donc ça, c'est là où tes conseillers politiques, tes attachés de presse, les gens qui travaillent en communication avec toi sont d'un réel support, un réel filet pour justement avoir une prise de parole qui ne sera pas interprétée non plus. Il ne faut pas qu'elle place interprétation et reprise de façon malveillante par un groupe ou un autre, une idéologie ou une autre. C'est là où il aurait pu faire la différence. Il a encore le temps, pour moi, de faire la différence parce que c'est encore un enjeu qui est là, qui est bouillant, qui est chaud. Ça va être ça tout le long de l'enquête. Mais il faut se dépêcher à mettre le couvercle sur la marmite.
Ouais, en contrepartie, comme je te disais, il y a beaucoup de spécialistes qui trouvent qu'il a bien tempéré là, par la suite. On fait une courte pause ici à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Au retour, Pascal, tu nous présentes quelques extraits concernant justement cet assassinat dans un métro. Hein,
d'une jeune fille. Oui.
Excellent. Et on va terminer l'émission avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui va nous parler de son sondage sur les véhicules à essence. Demeurez des nôtres. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.